Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h32, on est ensemble avec le débat des grandes voix, à présent avec à mes côtés ce soir Charles Villeneuve et Michel Cotta. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Une fois n'est pas coutume, l'Europe semble ce soir encore désunie face à la crise du Covid. En ordre dispersé, de nouvelles mesures ont été annoncées, on en a parlé à Marseille et à Bordeaux. Le gouvernement laisse maintenant les préfets gérer au plus près du terrain. En première ligne. D'abord, je ne sais pas vous, Charles Villeneuve et Michel Cotta, mais ce lundi, je ne sais toujours pas ce qu'il faut en penser. Est-on dans une situation à nouveau critique ou pas de quoi s'inquiéter, comme le disait le Premier ministre il y a des jours ? Charles Villeneuve.
Écoutez, moi, dans ces affaires-là, je cherche, comment dirais-je, l'objet qui va me le plus rassurer. Et j'ai découvert que l'université de New York avait fait appel à des dizaines de scientifiques, de médecins, de chercheurs, oui, qui tous ont dit, finalement, au cours d'un colloque, mais tant qu'on ne trouvera pas une thérapeutique et qu'on ne trouvera pas un vaccin, les seuls vrais spécialistes, ce sont ceux des sciences du comportement. Les psychologues, les sociologues, etc. Il faut, finalement, la dissuasion, l'arme nucléaire en quelque sorte, si vous voulez, de la dissuasion, eh bien, c'est la psychologie.
Donc, les bons comportements, le port du masque, ne pas trop se toucher, respecter les mesures barrières.
Éviter de se réunir à trop nombreux, éviter les grandes manifestations, oui, qu'on vient de le décider d'ailleurs le préfet. Et moi, je trouve que c'est assez intelligent de la part du Premier ministre français d'avoir délégué au territoire pour s'adapter, si vous voulez, à ces mêmes territoires, à situation Marseille, on le sait, oui. Bordeaux aussi, et la Guadeloupe.
Oui, Marseille,
sont les
apparemment, c'est ce que disait le préfet tout à l'heure, hein, ils n'ont plus que 4 places en réanimation, 4 places seulement
oui, en comptant
pour
les
toute
lits
la
sont
ville en réanimation. Michel Cotta.
Alors, moi, je suis aussi persuadée que je comprends très bien le gouvernement de savoir jusqu'où les mesures sont tolérables. Hein, c'est ce qu'a dit même la maire de Marseille, oui, tout à l'heure. Elle dit, il faut quand même, c'est la science du comportement effectivement qui nous démontre jusqu'où, oui, les mesures sont supportables.
La répression
alors,
ne marche
revanche,
qu'un moment, a dit Michel Rubirola,
voilà,
la maire de Marseille.
En revanche, je suis absolument indignée par le comportement du Conseil scientifique.
Bien,
je suis
pourquoi
indignée parce que Delfraissy n'avait pas à dire trois jours avant que le Premier ministre parle, il n'avait pas à dire le gouvernement, vous savez, va avoir des choix draconiens à faire. C'est pas
vrai
son
que ça
boulot.
A créé une attente d'ailleurs.
Ben, c'est pas son boulot. Alors du coup
absolument.
Ça
un discours d'anxiété.
Une anxiété, et deux, on s'est dit, ah ben alors finalement le Premier ministre il a rien dit. Il a dit simplement, on m'a demandé d'ajuster les remèdes, les perspectives, etc., selon les régions, et je l'ai fait. Du coup, oui, tout le monde a dit, parce que Jean-Paul Delfraissy avait dit le contraire, tout le monde a dit, ah bah alors si c'était pour ça, je vois pas pourquoi il nous a convoqué celui-là.
Mais pardon, je reviens quand même à ce que je disais avec le docteur Deray, qui était mon invité à 18h20, la lisibilité pour les Français et l'adhésion pour une politique sanitaire intelligente. Dans le même temps, la préfète de Marseille, de Gironde, pardon, pour Bordeaux, dit les rassemblements de 10 personnes, pas plus, mais pour les rassemblements public, 1000 personnes, c'est d'accord. Vous voyez, ce que je veux dire, il y a un problème de compréhension, je pense, pour le public et d'adhésion pour les Français.
C'est vrai.
Charles Villeneuve.
Mais regardons ce qui se fait en Europe. Tout le monde resserre les dispositifs. Que ce soit en Angleterre, que ce soit en Belgique, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne. Finalement, vous avez vu que les Anglais interdisent les rassemblements au-delà de 6 personnes.
Oui, et un peu plus loin de nous, les Israéliens reconfinent totalement.
Totalement, 3 semaines. Les Belges, idem. C'est quasiment transposition des mesures anglaises.
Oui.
L'Allemagne, non, ne touche rien parce que finalement, c'est le pays où il y a le moins de morts aux 100 000 habitants. 11 sur 100 000. 216 en Espagne pour 100 000. Il est évident que là, si vous voulez, l'alerte a été donnée. Vous avez vu qu'on reconfine complètement le sud de la Catalogne.
Oui, oui.
Bon, de la même manière, l'Italie se retrouve avec 13 000 enseignants contaminés. Et on fait des efforts, notamment budgétaires, dans les classes, puisque la plupart des meubles, des bureaux, des enfants sont distancés d'1,50 m. Dans beaucoup de classes, des centaines de classes. En Espagne, tout le monde porte le masque à partir de 6 ans, que ce soit dans le métro de Madrid ou dans la Sierra Nevada.
Oui, oui.
C'est tout le monde a le masque, oui, à partir de 6 ans.
Donc vous voulez dire que finalement, chez nous, les mesures ne sont pas si restrictives. On se plaint beaucoup, mais elles ne sont pas si restrictives.
Elles deviennent de plus en plus restrictives. À Marseille, par exemple, mais c'est le bon sens. Et moi, je crois que, justement, pour un peu reprendre le relais de Michel, le Premier ministre a pris quasiment, non pas le contre-pied, c'est pas réfléchi, c'est pas pensé, c'est pas une stratégie du président du Conseil scientifique, le professeur Delfraissy, parce qu'il n'a pas voulu si vous voulez, accentuer l'anxiété des Français. Parce qu'il est évident que toi, comme moi d'ailleurs, et comme sans doute Julien, on a été assez inquiets par la sortie du professeur Delfrécy.
Oui, mais là où De Rey
a suscité une attente et un message, assez inquiétant, c'est vrai, Michel
Cotard. Là où le professeur De Rey, qu'on a entendu tout à l'heure, a quand même un peu raison, c'est que nous nous sommes tous dit quand même, en juillet et en août, on a vu des scènes de jeunes s'embrassant, on a vu les scènes de Saint-Tropez, on a vu... Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tout le monde nous a dit « Oh non, mais ça, c'est la queue de la... C'est la fin. Oui. C'est la fin de la... C'est la fin de la première vague. »
Mais faut-il vraiment, pardon de le dire comme ça, emmerder et cibler les jeunes ça n'est pas eux qui sont touchés par le virus.
Il ne faut pas cibler les jeunes, mais simplement, il faut... Là, pour le coup, les sciences du comportement devraient leur démontrer qu'il faut quand même... qu'ils fassent attention.
Souvenez-vous qu'au début de l'épidémie, on a dit qu'il faut que le virus circule pour arriver à cette immunité collective. Enfin, et donc, il faut qu'il circule chez les jeunes.
On y a renoncé depuis longtemps.
Là aussi, un message un peu contradictoire qui a été envoyé à l'opinion publique.
C'est pour ça que, justement, en juillet, rien n'a été fait. C'est parce que, justement, on s'est dit les pauvres, ils sont confinés pendant 2 mois, alors on peut bien leur laisser ça. Eh bien, malheureusement, peut-être fallait-il être prudent dès ce moment-là et peut-être le professeur De Rey a raison.
Bien, et on continue d'en parler dans quelques secondes, 18h38. On se retrouve avec les grandes voix, Charles Villeneuve et Michel Cotta ce soir au micro d'Europe Soir. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec toujours le débat des grandes voix et ce soir à mes côtés, Charles Villeneuve et Michel Cotta dans le studio d'Europe Soir. On continue de parler de ces annonces qui ont été faites en Gironde, qui ont été faites en Bouches-du-Rhône, à Bordeaux donc et à Marseille. Des restrictions supplémentaires pour lutter contre le Covid. On va parler de la Turquie dans un instant. Je voulais juste l'un et l'autre vous entendre encore quelques instants sur cette politique qui a été choisie par le gouvernement de territorialiser la lutte contre l'épidémie. Pas d'annonce nationale, mais chaque préfet peut maintenant décider au niveau local des restrictions supplémentaires. Est-ce que ça a une forme de cohérence, ça,
oui,
Michel Cotard?
Je trouve qu'on a beaucoup accusé le gouvernement d'être trop centralisateur. Oui. On a beaucoup dit oui, mais rien ne se décide à Paris. C'était encore le thème des Gilets jaunes l'autre jour. Bon. Rien, tout se décide à Paris. Rien. Je trouve que la démarche qui a été de donner ça au préfet avec les maires et avec les présidents de conseils régionaux, etc., ça me paraît beaucoup plus efficace, en tout cas, et beaucoup mieux supporté par les Marseillais eux-mêmes, par exemple. C'est-à-dire, tout ce qui vient de Paris, on sait bien que l'OM déteste le Paris Saint-Germain.
Mais
tout
ça vient de la monarchie, ça.
Tout ce qui vient de Paris, c'est là. Et là, ça vient de chez eux. Quoi.
Et Emmanuel Macron, quelle distance a-t-il pris avec la crise et la gestion de l'épidémie? Parce que je vous pose la question, il était vraiment en première ligne, pendant le confinement, évidemment, pendant l'été, d'une certaine manière. Il laisse vraiment Jean Castex, aujourd'hui, gérer la crise. C'est Jean Castex qui a pris la parole vendredi, c'est lui qui a pris la parole il y a 10 jours.
Il a tiré la leçon, ou les leçons, de la première partie de la crise, là où il y a eu le plus de morts. Parce que jusqu'à présent, le chiffre justement des décédés, si vous voulez, des chiffres et de ceux qui rentrent en réanimation ne sont pas équivalents à ce que ça a été en mars, en avril, en février, mars, avril. Bon, et heureusement. Et je trouve que c'est assez intelligent d'avoir tiré les leçons, notamment des maires, des locaux, qui ont pris des initiatives personnelles, rappelons-nous, sur le plan des masques, puisqu'il y avait une pénurie. En réalité, les masques étaient tout aussi importants, mais il n'y en avait pas.
Oui.
Et donc, moi, je trouve d'ailleurs que, pour ça, le pouvoir n'a pas eu assez d'humilité pour reconnaître qu'il s'était trompé, qu'en réalité, il n'y en avait pas. Mais très bien, bon, maintenant, on est tout à fait à un autre stade. Et dès lors qu'on délocalise, si vous voulez, qu'on décentralise, que les Jacobins ont enfin passé la main aux Girondins, c'est-à-dire que les préfets, heureusement, ça ne s'est pas terminé comme en 1793, mais que les préfets maintenant prennent la main dans le cadre d'un dialogue avec les maires, je trouve que c'est intelligent et c'est bien ajusté.
Comment jugez-vous la restriction, je pense à ça parce que c'est une des mesures fortes annoncées à la fois dans les Bouches-du-Rhône et à la fois en Gironde, les restrictions pour les visites dans les EHPAD. Parce que l'une des grandes questions, c'est de protéger, je le disais tout à l'heure, les plus fragiles. Alors il paraît que c'est anticonstitutionnel de confiner simplement une partie de la population, mais est-ce que ça va dans le bon sens?
On peut quand même décider que pour une dizaine de jours, parce qu'au fond, on a 15 jours difficiles là, pour voir si... oui, il y a moins de monde en hospitalisation, mais si le nombre des atteints et des touchés par le Covid finit à l'hôpital. Donc on a 15 jours difficiles. Moi, je trouve tout à fait normal qu'on fasse une bulle, comme disait
Delphine,
qu'on prenne des précautions autour de... En revanche...
C'est ce qu'on fait en Belgique, d'ailleurs.
Sur la stratégie jacobine, ce qui manque quand même de stratégie jacobine au plus haut point, c'est ce qui se pratique dans les écoles.
Oui.
Parce que bien malin, et qui peut savoir ce qui se passe quand il y a deux malades ou trois malades, ou comment on
c'est
envoie...
C'est une gestion en ordre dispersé pour l'instant.
Pour l'école, on aurait... il me semble,
plusieurs
faire
dizaines
un plan cohérent
oui,
et faire un plan d'ensemble.
Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, alors?
Bah, faire comme en Espagne, par exemple, mettre des tables beaucoup plus éloignées
ah oui.
les unes des
autres.
En
Italie, oui.
Il fallait,
ah oui.
je pense, faire quelque chose de plus unifié.
Non, il fallait maintenir l'école.
Voilà, et à partir de quand on l'a fait
Il fallait peut-être modifier sur le plan de la distanciation, c'est
oui,
vrai,
oui.
et du masque, peut-être être un peu plus, si vous voulez... impératif.
Dans le cas présent, il n'y a pas un parent d'élève qui sait ce qu'il faut faire.
Alors, après la crise sanitaire, et on n'a pas fini d'en parler, j'en suis sûr, on évoque maintenant le regain de tension avec la Turquie. Ne cherchez pas querelle à la Turquie, a dit son président Erdogan à l'endroit d'Emmanuel Macron. Regardez.
Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai redit, vous ne connaissez pas l'histoire. Vous ne connaissez même pas l'histoire de France. Ne vous querellez pas avec le peuple turc. Ne vous querellez pas avec la Turquie.
Voilà, vous avez entendu ce qu'a dit le président Erdogan. En termes diplomatiques, ce sont des mots très très forts hein, quand même.
Oui.
Ça chauffe assez sérieusement entre Paris et Ankara. Donc pour que chacun comprenne, ça fait suite à l'intervention dans des eaux territoriales qui sont censées être des eaux appartenant ou dépendant de la Grèce. Et la France a envoyé un certain nombre de navires de troupes, et le président Macron a fait part de son mécontentement de façon assez, là aussi, sérieuse au président Erdogan. À quoi joue le président Erdogan et a-t-on, nous, Français, raison de se fâcher avec lui?
Alors, je vais vous dire. Aujourd'hui, Erdogan traverse une zone de turbulence très sévère en matière de politique intérieure. Il veut l'affranchir par la surenchère. La perte des mairies, notamment celle d'Ankara, d'Istanbul et de plusieurs grandes villes, a appauvri complètement les réserves et le trésor de guerre de l'AKP, le parti sur lequel il s'appuie, la majorité, et lui-même. Le néo, si vous voulez, sultan, se concentre sur la conservation de son pouvoir à l'élection présidentielle de 2023.
Oui.
À partir de là, il a passé une alliance avec le Qatar, il a déployé en Syrie beaucoup de soldats contre les Kurdes, c'est l'ennemi, si vous voulez, comme les Arméniens, l'ennemi historique, en même temps que la Grèce. Il a renforcé les Azéris contre l'Arménie. Il a reconverti en mosquée la basilique Sainte-Sophie. Ça, c'était aussi une provocation. Mais c'est voulu, c'est politiquement calculé.
Oui.
Et ce n'est pas hasard.
Et il a aussi réinstallé, quand même, pardon, hein, pour ceux qui suivent ça de loin, mais il a réinstallé un islam politique aussi en Turquie, hein, qui était un pays laïque.
Absolument, absolument. Mais il ne faut pas oublier qu'il a été élevé, quand vous regardez bien, si vous voulez, à l'occasion, le CV, le curriculum vitae d'Erdogan. Dès l'âge de 6 ans, il est dans une école religieuse islamique.
Oui.
Et ensuite, à l'université islamique, idem.
Alors,
il est à Coquiner et l'AKP. C'est une prolongation des frères musulmans. Mais surtout, je voudrais dire une chose qui est assez intéressante, parce que c'est très rare que le chef du Mossad, Yossi Cohen, sorte de sa réserve et dit qu'aujourd'hui, l'ennemi principal et le plus dangereux dans la région n'est plus Téhéran, n'est plus l'Iran, mais la Turquie. Et puis, il ne faut pas oublier, enfin, qu'il y a 3 000 milliards de réserves de gaz qui ont été découvertes dans la Méditerranée orientale.
Bien, vous avez posé les bases, Michel Cotta. Je vous donne la parole dans quelques secondes, 18h47. Faut-il avoir peur du président Erdogan avec qui le président Macron est en train de se fâcher? On en parle juste après la pause. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h51, on est toujours en studio, Europe Soir, avec le débat des grandes voix. Ce soir, Charles Villeneuve est à mes côtés avec Michel Cotta. Et on évoque donc ce regain de tension avec la Turquie. Le président Erdogan s'est montré menaçant à l'endroit d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Eh bien car la Turquie revendique le droit d'exploiter des gisements d'hydrocarbures dans une zone maritime qui dépendrait d'Athènes. La France s'en est mêlée en déployant des navires de guerre et des avions de chasse de combat dans la région, ce qui a fait évidemment hurler le président turc.
Il faut dire que tout ça avait été précédé quand même en juin d'une offensive de la marine turque contre un bateau français. Et donc, c'est sans doute cela qui a réveillé Emmanuel Macron.
Alors, mais poids, moi, comme toujours... Mais le poids des mots, quand même, Michel Cotard.
Non, mais c'est une violence
Monsieur
incroyable.
Erdogan dit, oui. Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi.
Oui, c'est comme s'il allait le faire assassiner demain.
C'est menaçant, ça.
Oui, j'ai jamais vu une violence pareille. On parle de violence générale. Ouais, oui. Mais là, j'ai jamais vu une violence pareille dans le langage, j'ose même pas dire, diplomatique. Alors, effectivement, moi, toujours quand la France se lance seule dans un conflit, j'ai un peu peur pour la France. J'ai peur pour l'opération Barkhane, par exemple. On s'est lancé tout seul. Bon. Donc là, au début, je me suis dit, pourquoi est-ce que Macron se précipite là-dessus? Je crois qu'il se précipite pour deux raisons. C'est que d'abord, c'est quand même pour une bonne cause. On ne peut pas laisser les Turcs perquisitionner, si j'ose dire, les eaux territoriales grecques. Oui. Hein. Et deuxièmement, c'est parce que personne autour de lui ne fait rien. L'OTAN ne peut rien faire parce que la Turquie est membre de l'OTAN. Donc l'OTAN, plus personne, tout le monde ne plonge.
Et les Allemands
et les Européens sont divisés. On comprend que, évidemment, Merkel, par exemple, a des problèmes, puisqu'elle a chez elle d'abord beaucoup de Turcs, et ensuite, elle a toujours dans la tête la menace de Erdogan disant « Attention, j'ouvre les frontières, ils viennent tous chez vous ».
La Turquie, c'est 82 millions d'habitants, rappelons-le, avec un président Erdogan qui a des ambitions débridées, qui est à la tête du pays depuis 17 ans, et qui incarne, d'une certaine manière, la synthèse entre islamisme et nationalisme.
C'est ça,
et nationalisme. Oui. Et c'est là-dessus qu'il joue dans son bras de fer avec le président Macron. Il veut jouer le regain nationalisme.
Alors, écoutez, le président Macron, je crois, a retenu, lorsqu'il est venu à la nouvelle école de guerre française, a retenu la devise de la nouvelle école de guerre française. Civis pacem, para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et la livraison des 18 Rafales et de l'armement marine assez sophistiqué part de ce raisonnement. La meilleure manière
d'amener... C'est la première fois que des Européens achèteraient des Rafales, si la Grèce les achète.
Oui, mais là, justement, c'est un joli tour de manche à l'égard des Américains. Bon, cela étant, les Américains ont bougé depuis hier. Mike Pompeo, qui est le secrétaire d'État, ancien patron de la CIA, a dit quand même que Erdogan passait les bornes. Et contre les foudres d'Erdogan, il faut bien trouver des paratonnerres. Vous savez qu'il a commencé sur le nord de l'île de Chypre, qu'il avait annexé.
Oui.
Pas lui, mais ses prédécesseurs. C'est dans la manière turque, toujours le tour de force. Si vous voulez, il a commencé des manœuvres maritimes qui sont qualifiées de orages en Méditerranée. Et c'est la raison pour laquelle ça a déclenché d'ailleurs tout de suite la révélation de la livraison par la France des 18 Rafales. Ce qui est important parce que ça change l'équilibre des forces.
Voilà, oui.
Et cet équilibre des forces, du fait, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, a fait ramener, si vous voulez, le navire qui part des secousses, des explosions dans les sous-sols marins. C'est pour ça qu'on dit que c'est un navire sismique.
Oui, oui.
Si vous voulez, des selles ou pas, s'il y a des richesses minières importantes.
Bien. Et simplement sur la question des migrants, parce qu'on a longtemps dit on ne peut pas toucher à la Turquie, on ne peut rien dire à la Turquie, parce que c'est un carrefour important.
Et oui, parce qu'ils avaient été payés pour... Vous rappelez qu'ils avaient été payés par l'Europe.
Qui potentiellement peuvent arriver en Europe. Ça n'est plus un sujet pour le président Macron?
Oui, c'est sûrement un sujet pour le président Macron, mais c'est sûrement un sujet pour le président Macron.
Et pour
L'Allemagne a déjà donné tout ce qu'elle avait à donner. Oui, c'est un sujet. Il n'empêche que dans ce genre, étant donné le personnage d'Erdogan, il y a quand même beaucoup de mouvements de muscles, beaucoup dans ce cas-là. C'est-à-dire que je pense qu'il faut effectivement...
Des mouvements de muscles qui se neutralisent.
Voilà.
Mais c'est vrai,
le muscle,
vous avez raison.
C'est les rafales. Les muscles de Turc, c'est les rafales. Donc, il fallait que Macron soit là pour faire attendre, en tout cas, une intervention européenne, si elle doit venir.
La suite au second... épisode, parce qu'on aura évidemment...
Il y en aura. Vous savez que demain, il prend la présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Oui.
Et c'est vrai qu'il détient, comme vient de le souligner Michel, l'une des clés de l'immigration pour l'Europe. Et la France est bien évidemment, si vous voulez, dans le collimateur sur ce plan-là.
Bien.
Pas seulement l'Allemagne.
C'est ça que ça veut dire, président Macron, attention.
Merci à tous les deux, 18h56, merci.